affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Pour me trouver moi-même, je pars et je combats. C'est la devise que fit graver Pierre Messmer sur son épée d'académicien. Elle dit l'unité d'une vie placée sous le signe de l'engagement, au service d'une certaine idée de la France. Des forces françaises libres, à l'Institut de France, la vie de Pierre Messmer se confond aussi avec celle de notre pays. Au cours de cette vie, Pierre Messmer a été acteur d'événements qui ont profondément marqué notre pays. La Seconde Guerre mondiale, bien sûr, la guerre d'Indochine, la décolonisation, le conflit algérien, la naissance de la Ve République, l'entrée dans l'ère nucléaire, mai 68, la société des loisirs de l'hédonisme, et pour finir, la mondialisation. Redécouvrir la vie de Pierre Messmer, c'est donc mesurer les transformations qui ont profondément marqué notre pays au cours de ces années. Et c'est à cet exercice que nous allons nous livrer en compagnie de Frédéric Turpin, qui a récemment signé une biographie consacrée à Pierre Messmer. Cette biographie est publiée aux éditions Perrin et elle décrit Pierre Messmer comme le dernier gaulliste. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Savoie-Mont-Blanc. Votre biographie, c'est bien naturel qu'une biographie est très fortement chronologique. Et donc, commençons par le début, de l'entrée de Pierre Messmer dans sa vie d'adulte et d'homme engagé. Ça se déroule en mai 40 et ça crée presque un petit hiatus, désolé, avec le titre. Non pas un hiatus, mais un complément. Dernier gaulliste, mais aussi premier gaulliste, gaulliste avant même le 18 juin finalement.
Oui, il a été très tôt gaulliste au sens du devoir, honneur et patrie, engagement en faveur de la défense de la France contre l'invasion allemande. Pierre Messmer est un patriote républicain convaincu qui s'engage pleinement. Il a 24 ans en 1940, il est jeune officier. Il est un ancien étudiant donc, de l'école coloniale qui était devenue l'école nationale de la France d'outre-mer. Et à ce titre, il participe au combat de mai-juin 1940 comme officier commandant des troupes de tirailleurs sénégalais.
Oui, alors ce qui est frappant, c'est que c'est lorsqu'il entend le maréchal Pétain capituler que directement tout son être se révolte.
Oui.
Avant même que d'autres perspectives s'ouvrent. C'est pas possible.
Oui, ce n'est pas possible pour lui parce que, comme beaucoup de jeunes hommes de sa génération, en tout cas ceux qui ont franchi le Rubicon en rejoignant la France libre, Pierre Messmer ne peut pas viscéralement accepter la défaite qui est en train de se produire sous ses yeux. Il est à la fois un acteur et surtout un spectateur impuissant au moment de la défaite de mai-juin 1940. Et ce discours du maréchal Pétain qu'il entend dans un café au moment où il essaye de rejoindre avec Jean Simon Marseille pour trouver un bateau et pour rejoindre l'Angleterre ou l'Afrique du Nord, un endroit où il puisse continuer à se battre. La première idée de Pierre Messmer et de Jean Simon, c'est fondamentalement de poursuivre la lutte, de ne pas capituler face à l'Allemagne.
Peut-être faut-il s'attarder un petit peu sur les circonstances de cet engagement, parce que bon, le temps passant, on finit par oublier, on pourrait croire que c'est quelque chose de simple. Le général de Gaulle dit qu'il faut poursuivre le combat, et puis on imagine bien sûr qu'il n'y a pas de bureau de recrutement, mais en fait ça se fait dans des circonstances extrêmement romanesques et périlleuses.
Oui, d'ailleurs, quand on regarde un petit peu l'histoire de chaque Français libre, on se rend compte que chacun a eu une démarche particulière et a suivi un chemin géographique différent pour arriver jusqu'en Angleterre auprès du général de Gaulle. Dans le cas de Pierre Messmer, il a, avec Jean Simon, détourné un cargo italien qui avait été saisi en mai-juin 1940, et il l'a envoyé, grâce d'ailleurs au commandant de bord, le commandant Villemain. Ils l'ont détourné sur Gibraltar, et c'est là, avec le futur amiral Muselier, qu'ils ont rejoint la France libre à Londres. Bon, certains ont pu passer directement en bateau via la traversée de la Manche en Angleterre. Là, on a affaire à une autre strate, j'allais dire géographique, de franchissement vers la France libre.
Alors, au sein de la France libre, il y avait tous les profils. Certes, le caractère explique certaines décisions. Pierre Messmer est à la fois quelqu'un de réfléchi et de fougueux, tel que vous nous le décrivez, mais cela ne vient-il pas également de plus loin? Quand on prend une telle décision, est-ce que ça ne vient pas d'encore plus loin? De sa famille, par exemple?
Alors, c'est l'un des éléments d'explication avancée. Les Messmer sont une famille originaire d'Alsace, qui en 1871 ont refusé l'annexion, et qui par conséquent ont tout sacrifié, le grand-père de Pierre Messmer a tout sacrifié pour ne pas être allemand. Par conséquent, il y a dans cette famille la notion de devoir, la notion de patrie, d'engagement, de dépassement de soi-même au service de la cause de la France. Et il a été éduqué en ce sens, c'est pour ça que je vous disais dans mon propos liminaire que Pierre Messmer a été mu toute sa vie par ce sens de l'engagement national, patriotique, chez qui vraiment c'est un fil conducteur. Et dès son plus jeune âge, il est marqué par cette fibre patriotique qui se traduit par la notion de devoir. Donc l'individu, finalement, doit laisser place à la nation et il doit être prêt au sacrifice suprême s'il le faut. Et c'est ce qui explique que Pierre Messmer, en 1940, entre pleinement dans une forme de résistance aux autorités officielles de la France, qui s'engagent à ce moment-là dans l'armistice, parce que pour lui, ce n'est pas possible. La France qu'il aime, la France qu'il chérit, la France qu'il a dans son cœur, refuse cette défaite. Donc il faut viscéralement continuer la lutte, coûte que coûte.
Et les armes à la main, parce que bon, c'est une chose de rejoindre Londres, mais lui ne souhaite pas rester à Londres, il veut aussitôt prendre les armes et se confronter aux Allemands. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect du Pierre Messmer combattant et de ses campagnes, notamment en Afrique du Nord?
Alors, Pierre Messmer, effectivement, ne va pas à Londres pour être standardiste ou pour parler à la BBC. Il vient uniquement pour se battre. Il n'y a pas un engagement politique derrière. Il y aura toute une reconstruction ensuite par rapport au sens de la France libre, etc. Mais à la base de la France libre, ce sont des Français et des Françaises qui refusent la défaite et qui veulent se battre, pour qui la guerre n'est pas terminée, qu'il faut porter le plus haut possible encore l'étendard français, même s'il ne reste plus qu'un moignon d'étendard français. Donc Pierre Messmer va s'engager pleinement dans le combat. Il va rencontrer pour la première fois le général de Gaulle en juillet 1940, et comme c'est un officier, même jeune lieutenant, il obtient du général de pouvoir servir dans la Légion. Et il va servir, faire toute la guerre entre 1940 et 1943 au sein de la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Et quand je dis toute la guerre, c'est-à-dire premier engagement à partir de septembre au Gabon, pour la conquête du Gabon, puis combat en Érythrée, puis la Libye, et bien sûr Bir Hakeim, le premier grand fait d'armes qui remet la France libre au cœur de cette résistance nationale et internationale par le choc médiatique que cela représente, de tenir tête pendant plus de 15 jours à l'Afrika Korps de Rommel, Rommel qui commande directement ses troupes. Ce n'est pas un de ses officiers, c'est Rommel qui commande l'assaut sur Bir Hakeim. Vous aurez l'Alamein également.
Oui, deux batailles très importantes, même sur le plan stratégique, pas seulement sur le plan, symbolique. Hein.
Oui, mais Pierre Messmer est aussi quelqu'un de très modeste. Donc quand je dis modeste, c'est-à-dire que lui, il le voit enterré dans son bunker, dans ses fortifications à Bir Hakeim, et il le voit El Alamein comme simple chair à canon, capitaine, qui entraîne ses hommes de sa compagnie à l'assaut face aux balles, tout simplement.
Oui, avec une dimension qui est très frappante, c'est qu'il a parfaitement conscience, lors de ses premiers combats, que la partie n'est pas gagnée. Et qu'il ne s'engage pas spécifiquement dans l'espoir de remporter la victoire, même si bien sûr c'est là, mais là encore, pour l'honneur et la volonté de montrer que les Français peuvent prendre part à ce choc de titans.
Oui, d'autant plus que Pierre Mesmer regrette pendant plusieurs mois, bon, d'abord de s'en prendre à d'autres Français au Gabon, puis aux Italiens en Érythrée. Il faut attendre, puis en Syrie bien sûr, face à d'autres Français de nouveau, mais il faut attendre 1942 pour qu'il puisse enfin retrouver l'ennemi face auquel il veut combattre, c'est-à-dire les Allemands. Et là, évidemment, l'engagement est encore plus total parce que c'est l'ennemi qu'il veut vaincre depuis 1940.
Alors cet engagement et ce sens du service de la France, il va le poursuivre une fois la victoire accomplie, mais peut-être faut-il préciser que, parce que maintenant on dit bon, Pierre Mesmer, le gaulliste ou le dernier gaulliste, à ce moment-là, dans l'avant-guerre et même peut-être dans les guerres, et juste après-guerre, sa sensibilité, on n'appelle pas ça encore des gaullistes, on appelle ça des compagnons de la libération, mais lui il est plutôt de sensibilité socialiste.
Oui, parce qu'on a une vision, très droitière du gaullisme à l'heure actuelle. Mais quand vous regardez un petit peu l'ensemble de la France libre, vous avez un petit peu de toutes les sensibilités politiques. Alors il se trouve que Pierre Mesmer, dans les années 30, était plutôt de sensibilité, disons, socialisante. Il avait trouvé en particulier que l'action de Léon Blum à la tête de la France, du point de vue économique et social, était une réussite. Alors que parallèlement, il trouvait que sa politique internationale était une catastrophe. Mais Pierre Mesmer était engagé. Donc il appartient un petit peu aux républicains typiques de ces années 30, peut-être plus que socialiste en tant que tel, qui admet la nécessité d'une certaine harmonie sociale et qui admet aussi que l'État doit être un État fort, un État qui doit conduire les destinées de la nation. Vous voyez déjà en germe tous les éléments du futur gaullisme, cette fois-ci autour du général de Gaulle, était là, plus ou moins. Mais, et c'est très clair chez Pierre Mesmer, il est à l'époque, et il le sera d'ailleurs durant les années 40 et surtout les années 50, lorsqu'il sera en Afrique, il est assez proche des milieux socialistes, oui.
Il faut peut-être préciser qu'à l'époque, on peut être à la fois tout à fait socialiste et totalement partisan de la présence de la France outre-mer. Et ça va être la grande affaire de Pierre Mesmer, puisque comme vous l'avez dit, avant même le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il se préparait à être administrateur colonial. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut décrire son métier, mais...
C'est ce qu'on disait à l'époque, administrateur colonial. Ce n'est qu'à partir de 1945 que, pour des questions politiques, on a voulu remplacer le titre de ministère des colonies par ministère de la France d'outre-mer, ce qui était peut-être plus en adéquation par rapport à l'évolution du processus de décolonisation. Mais il est certain, effectivement, qu'il a préparé Écolo, comme on disait à l'époque, l'école coloniale, qui en 1934 est devenue l'école nationale de la France d'outre-mer. Et l'objectif, c'était évidemment son objectif de servir sur le terrain. Son rêve, c'était d'être administrateur au fin fond de l'Afrique, de préférence d'ailleurs dans les sables de Mauritanie, ce qu'il a pu réaliser.
Voilà, mais au lendemain de la guerre, il fait un petit détour par l'Indochine et ce sera un second moment fondateur de sa personnalité, de sa carrière.
Alors, c'est encore une expérience très difficile parce que la guerre fait de Pierre Mesmer un héros. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est aussi un miraculé. C'est quand même quelqu'un qui a toujours été en première ligne, qui a fait don de sa personne, dans le bon sens du terme, physiquement, et qui a réussi à traverser cette guerre avec un minimum de blessures. Ce qui n'est pas le cas de la plupart de ses compagnons entrés en résistance dès 1940. Alors, dès 1940, fin 1944, début 1945, il est envoyé en Inde, chez les Britanniques, pour préparer le retour de la France en Indochine, qui est alors occupé par les Japonais. Et il va se retrouver du coup au cœur de la genèse de la première guerre d'Indochine, la guerre française, puisque en août 1945, au moment où les Japonais capitulent après les deux explosions atomiques, il est parachuté avec deux autres compagnons sur le Tonkin, avec pour objectif, ni plus ni moins, de prendre le gouvernement général et de réinstaller la France à lui tout seul avec son radio et un docteur en pharmacie. Évidemment, le Viet Minh d'Ho Chi Minh s'empare de lui et pendant un mois, ils sont prisonniers. D'ailleurs, l'un des membres de ce commando mourra en captivité, faute de soins. Et c'est là encore un miraculé, parce que c'est une chance qu'il ait résisté au mauvais traitement. Mais pendant un mois, il a pu voir de l'intérieur le Tonkin occupé, pris en main par le Viet Minh d'Ho Chi Minh. Donc il a une vision de terrain, de praticien, et c'est un des rares Français à connaître de l'intérieur ce Viet Minh. Et c'est pour ça que lorsqu'il est rapatrié sanitaire à la fin de l'année 1945, car il est vraiment dans un très mauvais état de santé après sa captivité, Marius Moutet, qui est le ministre socialiste de la France d'outre-mer, qui n'ignore pas qu'il a été dans sa jeunesse socialiste, fait appel à lui pour être conseiller technique en charge de la question indochinoise. Et c'est là qu'il commence tant à Paris et ensuite comme directeur de cabinet d'Émile Bollaert, au commissaire de France en Indochine en 1947-48, à s'occuper, j'allais dire, au sommet un peu de cette question indochinoise, avec pour objectif de trouver une solution négociée pour éviter absolument le conflit avec le Viet Minh. Avec, et c'est pour ça que c'est une expérience difficile, parce que tout ce qu'il a pu tenter, que ce soit à Paris ou à Saigon ou à Hanoï, a finalement échoué, à l'image de la politique de la France en Indochine à ce moment-là, et que tout ça conduit au conflit bien malgré lui. Mais il en tire une leçon fondamentale qui va le marquer dans son expérience au cours des années suivantes, c'est que pour lui, quand un peuple subit les assauts d'un nationalisme, disons, effréné, et qui réclame son indépendance, on ne peut pas aller contre. On ne peut pas briser ce sentiment national, à plus forte raison si les passions nationalistes s'en mêlent. Et par conséquent, il faut dans ce cas-là transiger, trouver des solutions à l'amiable pour réussir finalement à trouver une solution qui permette de garantir les intérêts français, certes en donnant l'indépendance, mais en maintenant une certaine influence. C'est l'idée, grosso modo, le fil conducteur qu'il aura au cours des années suivantes.
Idée à cette époque pas spécialement partagée par ses camarades.
Non, en particulier gaulliste.
Voilà.
Non, mais le gaullisme à l'époque, c'est le gaullisme du Rassemblement du peuple français, conduit, présidé par le général de Gaulle, et le RPF est un parti d'opposition à la 4ème République. Et sur son programme ultramarin est un programme, assez conservateur. Du moins, il est conservateur dans les faits parce que les gaullistes considèrent que aucun gouvernement n'a la capacité à gérer la décolonisation française, sauf un gouvernement qui serait présidé par le général de Gaulle. Donc il y a toujours une surenchère du RPF par rapport au gouvernement de la 4ème République sur la question coloniale. Et Pierre Messmer, de ce point de vue-là, lui est un praticien, il est fonctionnaire, il ne fait pas de politique, attention, mais il a une vision de terrain et non pas une vision parisienne des choses. Et il voit bien que le mouvement de décolonisation, il est en marche. Et il essaye de l'accompagner le plus possible dans le sens de son expérience indochinoise.
Oui, il y a des intérêts de la France. À aucun moment, il ne savonne la planche de la 4ème République. Au contraire, il fait de son mieux pour que tout se passe le mieux possible. Mais en revanche, comme c'est malgré tout un échec, comme on le sait, il en tire aussi des conclusions institutionnelles. C'est-à-dire que peu à peu, il réalise que cette 4ème République ne pourra pas accomplir ni relever les défis qui lui sont posés.
Alors il l'a réalisé en fait assez tôt, parce que dans la correspondance que j'ai pu trouver avec un de ses grands amis décédé très tôt, malheureusement, en 1950, qui était Didier Michel, un collègue de l'ENFOM, dès 1948, au moment où il quitte ses fonctions de directeur de cabinet auprès du haut-commissaire de France en Indochine, il dit très clairement qu'avec le système de la 4ème République, cette succession de gouvernements, ce retour à des vieilles gloires de la Troisième République, il pense à Paul Reynaud et d'autres, finalement, le système en lui-même est vicié et on ne trouvera pas de solution pour l'Indochine. Et de manière générale, du coup, son idée, c'est de plus retrouver à Paris dans un cabinet ministériel ou comme directeur de cabinet d'un haut commissaire ou d'un gouverneur général, mais d'être directement sur le terrain. Il veut désormais accomplir pleinement ce pourquoi il a travaillé dur pour entrer à l'école coloniale, c'est-à-dire être administrateur sur le terrain.
Et c'était son rêve de jeunesse également.
Oui, tout à fait.
Parce que ce n'est pas une carrière qu'il a choisie pour la carrière, mais pour poursuivre peut-être les rêves ou les chimères d'un enfant au tempérament probablement un peu aventureux quand même.
Oui, mais Pierre Messmer, ce fut d'ailleurs ma surprise de biographe, est quelqu'un de profondément marin. Ses parents lui avaient offert une maison à Saint-Gildas, dans le Morbihan, et c'est quelqu'un qui s'est adonné très jeune à la voile et qui a toujours été passionné par la mer. Donc les grands espaces marins, c'est la marque aussi de Pierre Messmer. On pense naturellement aux grands espaces désertiques, la Mauritanie, où là aussi il s'est accompli, mais la mer a toujours été une de ses boussoles très importantes.
Et en l'occurrence, donc, il met le cap pour l'Afrique et pour commencer, si je ne me trompe pas, la Mauritanie.
Oui, ça reste probablement parmi les meilleures années, c'est ce qu'il dit d'ailleurs lui-même, de sa vie professionnelle et même humaine, puisqu'il a beaucoup apprécié la Mauritanie, les contacts simples. Et il faut dire qu'être gouverneur ou administrateur de cercle en Mauritanie, ce ne sont pas les ors de la République qui vont vous assaillir très rapidement. Vous vivez très simplement. Et quand on décrit sa maison, je n'ose pas dire son palais, ce serait un grand mot, mais sa maison en banco, en deux pièces, pour être gouverneur, vous dites que, effectivement, mais c'était son rêve de jeunesse, précisément. Ce rôle d'administrateur de terrain, à faire la tournée en permanence, au plus près des populations, à régler des problèmes concrets, d'un puits, faire venir plus de matériel, etc., etc.
Oui, vous expliquez qu'à juste titre, ce n'est pas du tout... Enfin, être un tel fonctionnaire, c'est extrêmement différent d'être fonctionnaire à Paris, car pour une raison simple, à Paris, les fonctionnaires sont spécialisés, et lui, il doit être presque omniscient, mais sans moyens.
Oui, il passe beaucoup de temps à réclamer des moyens aussi. Ça, c'est une évidence, mais ce n'est pas propre à Pierre Messmer, j'allais dire, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer à cette époque.
Mais j'allais dire à juste titre, parce qu'il y a quelques passages qui sont quand même réellement très étonnants, notamment ceux où on apprend qu'il doit... Parce qu'il parvient à une période charnière aussi, où des gouverneurs militaires sont remplacés par des gouverneurs civils, dont il est, car s'il était un combattant de la France libre, malgré tout, là, il vient en tant qu'administrateur civil. Et donc l'armée a récupéré tous ses biens, et y compris les étagères, et donc il en est réduit à réaliser des étagères avec des caisses, des reliquats de caisses en bois. Et c'est l'une des surprises du livre des aventures de Pierre Messmer, c'est qu'on se rend compte en Indochine, on le parachute avec deux compagnons pour rétablir la souveraineté française. On est envoyé au fin fond du désert en Mauritanie, on a une sorte de poste de brousse qui représente la souveraineté de la France. L'extrême dénuement des hommes qui représentaient le pays et tenaient en main son destin.
Oui, pour la Mauritanie, c'est très vrai. Mais c'est parce qu'on a une vision un petit peu postérieure et reconstruite de ce qu'était la colonisation encore dans les années 40 et 50, puisque la Mauritanie, ça fait partie, comme le Tchad, des dernières marches de conquête et de pacification. Donc, c'était les militaires qui, jusqu'aux années 30, en gros, aux années 40 pour la Mauritanie, tenaient en main les destinées de ces marches militaires qu'on essayait de rendre aux civils. Et comme Messmer était lui-même un héros de guerre, capitaine de Légion étrangère, compagnon de libération en 1941, donc dès les premières promotions, il avait le profil idoine pour remplacer, évidemment, les militaires qui ne partaient pas de gaieté de cœur de Mauritanie. Pour l'Indochine, ce n'était pas vraiment une question de dénuement, c'était le dénuement de nos moyens en août 1945, alors que l'Indochine était quand même la perle de l'Empire avant 1939. Mais on en arrive, et puis les opérations étaient très mal montées, puisque toutes les équipes qui ont été envoyées ont toutes été tuées, ou presque. Là encore, je vous l'ai dit, Pierre Messmer est un miraculé, de ce point de vue-là.
Alors cette arrivée en Afrique correspond au début d'un grand mouvement, celui de la décolonisation. Là aussi, il semble-t-il, il le perçoit avant bien d'autres, et élabore une doctrine, surtout, pour y faire face avant bien d'autres. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette doctrine et ses racines intellectuelles, au-delà de l'expérience ?
Alors, lui-même dit que ce n'est pas, il n'a pas appris l'Empire à l'École nationale de la France d'Outre-mer. Il a appris un certain nombre de savoirs généraux, de disciplines, d'anthropologie, sociologie, etc. Concernant les peuples d'outre-mer, il a appris d'ailleurs, semble-t-il, du malgache. Il fallait apprendre une langue d'outre-mer. Comme il dit, c'est le seul endroit où j'ai jamais servi, donc cette seule langue ne m'a jamais servi. Mais foncièrement, il dit qu'il a découvert l'Empire pendant la guerre et après. Et c'est pour ça aussi que l'expérience indochinoise est fondamentale. Même s'il faut bien distinguer ce qui était sa conception des choses, l'Indochine, où on avait un peuple qui était déjà d'une grande maturité pour exercer par lui-même ses responsabilités au niveau national, et les peuples d'Afrique, en tout cas pour l'Afrique subsaharienne, qui, pour lui, n'en étaient pas encore arrivés au stade de pouvoir être indépendants en tant que tels. Donc il y a une distinction en la matière. C'est-à-dire que s'il a une vision évolutive des choses, que l'indépendance arrivera un jour, tôt ou tard, pour l'Afrique, au début des années 50, il ne la voit pas tout de suite encore. Il est encore dans un schéma de réussir la mise en valeur de ses colonies, comme on disait dans les années 30, ou le développement de ses colonies, comme on disait dans les années 1950. On est encore dans ce schéma. Mais c'est un schéma qui, chez lui, recherche à associer déjà le plus possible les élites, les élites autochtones de ces territoires.
Il y a aussi une rupture de sa part avec quand même la doctrine initiale de la France en la matière. C'est un mot qui va résonner curieusement aujourd'hui, celui d'assimilation. Oui. Il considère que l'assimilation n'est pas possible.
Non, ça n'a jamais été un turiféraire de l'assimilation. Il s'en est rendu compte assez vite, d'ailleurs, au niveau de l'Empire, lorsqu'il était notamment pendant la guerre, et qu'il servait dans l'Empire. Pour ça, il n'a jamais nourri beaucoup d'illusions en la matière. Lui, c'est un partisan... comme d'ailleurs un certain nombre d'anciens administrateurs de la France d'outre-mer, qui venaient de la France libre, c'est un partisan de l'association, c'est-à-dire de reconnaître au peuple d'outre-mer une identité propre. Par conséquent, on ne peut pas en faire des bons petits Français avec des instituteurs à la française, des programmes à la française, etc. Il n'y a pas cette ambition chez Pierre Messmer. Il a bien conscience des différences civilisationnelles et que par conséquent, il faut s'adapter aux populations, et non pas leur imposer un cadre qui marche pour les Français de métropole, mais pas forcément pour des gens qui, culturellement, ne relèvent pas des mêmes origines.
Vous suggérez à un moment que, de la sorte, il rejoint l'enseignement des oratoriens, ou peut-être même des jésuites, ou de la doctrine des missionnaires de l'époque, non ?
Alors, l'Église, oui, catholique, commence disons, après 1945, et c'est très net à partir des années 1950, à vouloir petit à petit, que les cadres de la prêtrise et des ecclésiastiques soient désormais des autochtones, c'est-à-dire couper le lien avec le colonisateur. De ce point de vue-là, l'Église a été plus en avance que les métropoles européennes. Je ne sais pas si cet exemple, il l'a conçu, vécu sur le terrain à ce moment-là. En tout cas, il n'en parle jamais. Par contre, Pierre Messmer était quelqu'un de très croyant, de très catholique. Il avait la foi du charbonnier, pour dire les choses très clairement.
On saisit à cette occasion toute la complexité du personnage, mais c'est peut-être la complexité de la France, hein, à la fois socialiste, gaulliste, patriote, catholique. C'est une sorte de précipité des éléments de l'identité nationale.
Oui, mais à cette époque, c'était une identité tout à fait acceptable. J'allais dire, maintenant, évidemment, avec nos yeux décolonisateurs de 2020, tout cela paraît extrêmement curieux et difficile à concilier. Mais le socialisme prêchait encore des formes, disons, d'assimilation au niveau de la doctrine coloniale en France, avec un regard plus économique, social, de développement, d'épanouissement des personnes humaines, dans un cadre français pour l'essentiel. Donc ça n'avait rien d'impossible dans une doctrine qui était fondamentalement celle de l'émancipation des individus.
Toutefois, la vie réelle est beaucoup plus compliquée. Lui, il l'aperçoit, et donc la décolonisation ne va pas être une partie de plaisir et se déroule dans des circonstances différentes de celles espérées, puisque les différentes lois cadres ou projets trouvent face à elle un mouvement qui les submerge les uns après les autres, et c'est de cela dont il est témoin.
Oui, alors il n'a pas très bien commencé non plus, puisqu'il a commencé par l'Indochine et la guerre. Et c'est une guerre quand même assez terrible. Ensuite, il y a eu une phase de répit entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Et puis là, il est rentré de nouveau dans le dur de la décolonisation avec le Cameroun, où ce qu'il a tenté en vue de ramener l'union des populations camerounaises de Niobé à la table des négociations échoue, ce qui conduit à la guerre, la pacification, une guerre très dure là aussi, qui ne s'achève réellement qu'au début des années 1960. Mais lorsqu'il est haut commissaire de France au Cameroun, il est là au moment où la guerre s'enclenche, puisque sa solution politique échoue. Ensuite, il est haut commissaire de France en AEF en janvier 1958, où là, les choses se passent globalement bien, il faut dire, les choses telles qu'elles sont. Et il va vivre le retour au pouvoir du général de Gaulle en mai 1958, comme haut commissaire de France en AEF. Et c'est de Gaulle qui le nommera haut commissaire de France en Afrique occidentale. Et c'est à ce poste qu'il géra la naissance de la communauté franco-africaine et son échec quasi immédiat, puisque ce projet gaullien par excellence, qui était fait pour durer 20 ou 25 ans jusqu'au début des années 1980, échoue dès, disons, l'été 1959, alors qu'il est mis en place à partir de janvier 1959, vous voyez. Et Mesmer, donc, termine ce dernier poste, son ultime poste de la France d'outre-mer, en décembre 1958.
Vous avez évoqué donc le retour au pouvoir du général de Gaulle. Il est à ce moment-là en Afrique. Il est gouverneur, c'est ça, au Cameroun?
Non, il est en AEF, à Brazzaville.
À Brazzaville. Voilà. À Brazzaville. Comment vit-il cet événement? De la part d'un gaulliste de la première heure, on aurait pu penser que ça aurait été l'enthousiasme immédiat. C'est beaucoup plus ambigu.
C'est à l'image de Pierre Messmer. C'est-à-dire, il est haut fonctionnaire de la République française. C'est un républicain patriote. Mais c'est un républicain donc qui tient aussi à la légalité des formes. Bon, le 13 mai 1958 reste quand même un coup de force. Il faut dire les choses clairement, appuyé par l'armée française en Algérie. Et ça, il en a tout à fait conscience.
Oui, on mettra les formes après.
Les formes arriveront en tout cas à partir du 1er juin, au moment de l'investiture du général de Gaulle devant l'Assemblée nationale. Mais Messmer a tout à fait conscience qu'il s'agit quand même d'un coup d'État. Donc il a une réaction de méfiance par rapport à ce qu'on pourrait qualifier de putschiste d'une certaine manière, du 13 mai 1958, et de l'armée derrière qui prend le pouvoir. Et dans le même temps, à partir du moment où on fait appel au général de Gaulle, c'est le gaulliste aussi qui commence à parler. C'est-à-dire qu'à la fois, il imite le développement des comités de salut public en AEF, il les tient un peu à leur merci. Il faut dire qu'une bonne partie d'entre eux sont composés de Français libres et qu'on ne peut pas en compter à Pierre Messmer en ce qui concerne la France libre. Il est compagnon de la Libération. Donc il arrive à limiter un petit peu les effets, disons, d'excitation des passions à Brazzaville et en AEF, en contrôlant un petit peu ce mouvement, et dans le même temps se déclare très clairement en faveur du retour au pouvoir du général de Gaulle. C'est là, typiquement Pierre Messmer, l'ordre, le devoir, parce que c'est le respect de la République, et en même temps, voilà ce qu'il faut pour la République.
C'est un peu le gaullisme lui-même, non ?
Alors, parce que c'est une figure attachée au général de Gaulle lui-même. C'est là la différence avec d'autres strates du gaullisme. Tout à l'heure, je vous disais que dans les années 50, il était plus SFIO, socialiste, que gaulliste au sens du RPF, du gaullisme partisan. Ce qui lui vaudra dans les années 60 d'être critiqué, parfois ouvertement, par Jacques Foccart, qui lui dira « Mais monsieur le ministre, vous-même, lorsque vous étiez socialiste sous la 4e République, ce à quoi Messmer répondait, mais j'ai toujours été gaulliste. D'ailleurs, pourquoi le général de Gaulle a fait appel à moi en 1960 pour être ministre des armées? C'est la fidélité à l'homme et à une certaine idée de la France.
Mais alors justement, en 1960, quand il est rappelé dans ce ministère des armées, quelle est sa mission? Dans ces circonstances quand même très particulières.
On peut dire que ce n'est pas un cadeau qu'on lui propose, ce n'est pas une sinécure, c'est quand même un ministère qui est en grande difficulté. Pourquoi ? Parce que fin janvier 1960, vous avez la semaine des barricades à Alger, une sorte de nouvelle tentative du 13 mai, mais sans le soutien de l'armée, qui finalement, le gouvernement de Michel Debré réussit à apaiser les choses et à rétablir le calme, mais le vent du boulet n'est pas passé bien loin, quand même. Et ça, de Gaulle en a conscience. Il a conscience que Pierre Guillaumat, qui était le ministre des armées à ce moment-là, autant il est d'une fidélité au général absolument... il n'y a aucun doute là-dessus. Mais...
Il a des scrupules.
Il a des scrupules très marqués au niveau de l'Algérie française. Et il n'est donc plus le bon homme au bon endroit. Il va d'ailleurs s'occuper ensuite de tout ce qui est armes nucléaires et de la filière nucléaire française. Mais voilà, on est sur il faut quelqu'un qui puisse désormais être une fidélité absolue à la fois au général et à l'évolution de sa politique algérienne. Et pour cela, évidemment, Pierre Messmer présente le profil idéal.
Celui d'un civil, mais qui s'est battu, qui a une certaine légitimité et qui est fidèle et qui va le prouver.
C'est un civil.
Nous n'avons toujours pas abordé de façon abrupte quelle est sa mission.
La mission, c'est tout simplement de tenir l'armée.
Et de faire le ménage.
Pour que l'armée reste un outil, un instrument de la politique de la nation, donc du gouvernement démocratiquement élu, et non un service factieux aux intérêts, de ses propres intérêts en quelque sorte, ou de ceux qu'il s'auto-désignerait. Donc l'idée, elle est claire. Il s'agit de tenir l'armée, de faire qu'elle puisse continuer à être la plus efficace aussi dans cette guerre, tout en préparant en même temps la suite, c'est-à-dire le passage à une armée dans une ère atomique et plus une ère coloniale ou de décolonisation.
Alors dans son esprit, les deux vont de pair d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il hérite d'une armée coloniale et va en faire une armée moderne. Mais pour son malheur, quand vous disiez que ce n'était pas un cadeau, c'est double. On pourrait croire que le deuxième aspect va être mieux accepté, mais ce n'est pas du tout le cas, parce que pour une armée qui compte un grand nombre d'officiers, qui veulent aussi faire carrière par ailleurs, et qui sont habitués à un certain modèle, l'armée nucléaire, ça veut dire la captation de parts immenses du budget aux dépens des régiments à l'ancienne.
Oui. Alors concrètement, il y a la question budgétaire, et puis il y a la question des effectifs. Mais là, on est déjà, j'allais dire, post-1962, puisque certes, la première bombe atomique française explose d'ailleurs quelques jours après son arrivée au ministère, en février 1960, mais il profite du travail qui a été fait, évidemment, par Pierre Guillaumat, de ce point de vue-là. Mais il continue sur la lancée, on multiplie les essais dans le désert du Sahara. Donc c'est enclenché, si vous voulez. Mais il faut attendre la fin de la guerre d'Algérie, et donc de l'engagement massif de l'armée française en Algérie, pour qu'on puisse aussi reformater complètement l'instrument de défense française. Ce qui passe évidemment par des crédits qui seront massivement octroyés au développement de l'arme nucléaire et de ses vecteurs, quelles que soient les trois dimensions, terrestre, navale et aérienne, Mirage 4A, les missiles du plateau d'Albion à venir, et bien sûr les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et puis la nécessité de reformater l'armée, notamment l'armée de terre, en fonction non plus de théâtres coloniaux ou ultramarins, mais d'un théâtre, disons, de guerre froide plus classique de Centre-Europe. Donc bataille de blindés, etc. Or, l'armée française n'est plus formatée pour ça, globalement. Et cela implique une forte déflation des effectifs. Il y aura sous Pierre Messmer, pendant 9 ans, 3 déflations des effectifs. Donc on passe d'une armée française, une armée de terre, à 650 000 hommes, initialement, à un peu moins de 320 000, à peu près. Donc ça laisse des traces auprès du corps des officiers, d'autant plus qu'une bonne partie d'entre eux ont eu beaucoup de mal à admettre la fin de la guerre d'Algérie.
C'est une armée qui est déjà meurtrie, qui subit ensuite une seconde saignée, même si c'est pour la bonne cause dans les deux cas.
Oui, d'autant plus que les premières saignées sont dues effectivement à la déflation des effectifs, parce qu'on repasse sur un nouveau format à l'ère atomique, mais disons qu'un certain nombre d'officiers sont poussés, parfois de manière un peu abrupte, vers la sortie.
Au cours de ces épisodes, on se rend compte qu'au-delà du caractère aventureux du personnage, il met sa peau au bout de ses idées au service de la France. Mais là, on découvre le versant raison d'État. Lorsque l'avenir du pays et des institutions est en jeu, sa main ne tremble pas. Et je voudrais qu'on évoque un épisode toujours douloureux pour certains, celui des harkis, qui lui sera longtemps reproché et sur lequel il s'est expliqué.
Oui, parce que c'est probablement un des rares remords de sa vie. En tout cas, c'est ce qu'il confesse à la fin de sa vie, et même sur le moment. Le Pierre Messmer est un combattant. Il ne faut pas oublier qu'il a fait la guerre dans la Légion et que la fraternité d'armes, la parole de la France, il sait ce que c'est. Il l'a vécu dans sa chair, que ce soit en Indochine, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, abandonner à un sort terrible une partie de ceux qui ont choisi la France, qui ont combattu pour elle, est quelque chose de très difficile à admettre pour Pierre Messmer. Mais c'est là où la raison d'État, comme vous le dites, l'emporte, parce que la politique gaullienne imposée par le général de Gaulle était qu'il fallait conclure au plus vite, à partir du début de l'année 62, ce conflit algérien. Par conséquent, il fallait, une fois qu'on avait signé les accords d'Évian, ne pas risquer de relancer la guerre. D'où le retour précipité de centaines de milliers de Français d'Algérie, les pieds noirs, et des dispositifs prévus pour, dans les accords d'Évian, pour le rapatriement des harkis, des forces supplétives de ce qu'on appelait à l'époque les Français de souche nord-africaine, les FSNA, en France, s'ils le souhaitaient. Il y avait tout un système, soit ils pouvaient être démobilisés en Algérie avec une prime, soit un contrat à durée déterminée armée française, soit s'engager dans l'armée française et revenir en France, métropole. La plupart d'entre eux, plus de 80%, ont choisi d'être démobilisés avec un pécule. Parce qu'au début, on est sur une application des accords d'Évian qui accorde l'amnistie, c'est dans le texte, qui accorde l'amnistie à tous les combattants de part et d'autre. Et l'erreur ou la faute gaullienne, qui est aussi du coup celle de tout le gouvernement français, celle de Pierre Messmer, c'est d'avoir fait confiance au FLN, qui n'a pas respecté évidemment sa parole. Et très rapidement, les harkis qui sont repartis dans le bled avec leur pécule se voient au début confisquer leur pécule, et ensuite, pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas ceux qui n'ont pas réussi à rejoindre les unités françaises, se voient massacrés dans des conditions assez abominables. La faute du gouvernement français, c'est peut-être de ne pas avoir tapé du poing sur la table à ce moment-là et d'avoir exigé du FLN, et de la LN en particulier aussi, de traiter ou de respecter tout simplement sa parole quant à l'amnistie qui avait été proclamée à la suite des accords d'Évian. Donc ce qu'on reproche à Pierre Messmer très clairement, c'est de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour aller chercher, y compris manu militari, les malheureux harkis et leurs familles qui se retrouvaient dans des conditions abominables, voire étaient massacrés après des tortures inimaginables.
Au-delà de la raison d'État, on a le sentiment qu'il y avait cette fidélité au général de Gaulle qui a beaucoup joué dans son comportement, disons, d'abstention lors de ces événements. Car il n'est pas moteur, bien évidemment, de l'abandon des harkis, mais il s'abstient de mettre la pression sur le général.
Alors, il prétend l'avoir fait quand même, puisqu'il a demandé au général d'intervenir en Conseil des ministres, d'ailleurs, de qu'est-ce qu'on fait, puisque en juillet 1962, il est clair que les massacres de harkis ne peuvent plus être considérés comme simplement isolés. C'est un phénomène de masse qui signifie qu'au-delà des réactions épidermiques de certaines populations qui considèrent que les harkis sont des collabos, qu'il faut exécuter, qui font payer aux harkis finalement parfois des ralliements tardifs au FLN, c'est trop systématique pour que cela puisse être de l'ordre de la réaction épidermique. C'est une volonté à l'évidence des nouvelles autorités algériennes dans toute leur diversité, parce qu'on ne sait pas trop exactement qui fait quoi, qui commande entre la LN, les Vilayas, le FLN, etc. en Algérie à partir du juillet 62. Mais dans les semaines qui précèdent, dans les semaines qui suivent l'indépendance algérienne, les harkis, évidemment, sont massacrés copieusement. Alors oui, il est intervenu auprès du général de Gaulle, mais de Gaulle lui a répondu très clairement qu'on n'allait pas relancer la guerre d'Algérie pour sauver les harkis. C'est ça le dilemme de ce point de vue-là. Et il ne s'agit pas de dresser uniquement des excuses pour Pierre Messmer, ce n'est pas le boulot non plus du biographe, c'est de regarder les choses le plus scientifiquement possible, mais il faut comprendre aussi le contexte de l'époque, puisque dans les accords d'Évian, on prévoyait entre 100 000 et 200 000 rapatriements de Français d'Algérie par an, sur 5, 6, 7 ans. Or, les Français d'Algérie, du fait eux-mêmes des massacres qu'ils ont subis, des fameuses disparitions, à partir de mars-avril, qui s'accélèrent. On a des centaines et des centaines de pieds noirs qui sont disparus et qu'on n'a jamais revus, donc qui ont été massacrés, qui fuient massivement l'Algérie. Donc il a fallu accueillir 700 à 800 000 pieds noirs en l'espace de quelques mois, ce qui n'était pas du tout prévu. Et la question des harkis s'ajoute au retour des Français d'Algérie. C'est ça aussi qui rend encore plus complexe, parce que on ne sait pas quoi faire des harkis, tout simplement. D'autant plus que généralement, ce sont les moins assimilés, j'allais dire, des Français de souche nord-africaine. Ce sont souvent des combattants qu'on a été chercher dans le bled, pour un certain nombre d'entre eux, analphabètes. C'est pas facile. Et en métropole, ils vont se retrouver face à des réseaux du FLN ou des Algériens de la communauté en France, qui eux-mêmes sont ouvriers chez Renault, Peugeot, etc. Et qui sont très marqués aussi par le poids du FLN sur place. Donc tout ça n'est pas d'une grande simplicité, et tout ça est fait dans l'urgence. C'est ça aussi, si vous voulez, qu'il faut regarder, si on veut être assez complet, sur l'action du gouvernement français.
Oui, les affaires d'État ne sont jamais simples.
Non, celle-là en particulier. Mais par contre, les conséquences sont assez graves, bien sûr.
Alors, il y a un autre épisode dans lequel Messmer, sans s'opposer au général de Gaulle, infléchit sa position. Événement qui va également marquer quand même l'irruption d'une France, de la France contemporaine, c'est mai 68. On sent que ces événements sont un moment où il reste à la fois quelqu'un de cet ancien monde, un roc qui ne bouge pas, dans une fidélité avec une préscience de l'intérêt de l'État, mais aussi quelqu'un qui comprend que la France a changé et que quelque chose est né et qui ne se traite pas avec les moyens d'avant.
Oui, mais il réagit à mai 68, j'allais dire comme un républicain, au sens où le maintien de l'ordre est sa première préoccupation, même si, évidemment, l'armée n'est pas en première ligne, et heureusement d'ailleurs, dans la gestion de mai 68 du point de vue sécuritaire. Mais l'armée est quand même en deuxième ligne, parce que si les manifestations, les oppositions devenaient une véritable insurrection, c'est bien l'armée qui serait là. Donc pour Pierre Messmer, ministre des Armées, il faut prévoir ce recours à la force si nécessaire. Mais, et je dis ça pour bien illustrer ce qu'est Pierre Messmer, il se refuse toujours à mettre en place des procédures qui ne soient pas légales ou dans une enveloppe légale. Donc créer des unités, par exemple, spéciales pour le maintien de l'ordre au cas où, oui, à condition que ça passe par un décret. Tout est comme ça chez Pierre Messmer. C'est-à-dire que c'est la République, ça doit rester dans le cadre d'une certaine forme de légalité. Même s'il y a une urgence, on peut trouver des formules qui permettent de rester dans la légalité.
Semble-t-il, dans certains conseils des ministres ou réunions interministérielles, le recours à la force était avancé par certains comme une solution, même dans les moments précoces des événements, et lui mettait son, non pas son veto, mais enfin expliquait que ce n'était pas possible et envisageable.
Oui, disons
même
les...
au-delà, techniquement, oui. Au-delà des aspects légaux.
Disons les choses.
Pas favorable à l'usage de cette force.
Tout à fait. Disons les choses franchement. De Gaulle lui demande à plusieurs reprises de faire intervenir l'armée pour chasser la chienlit, Estudiantine et autres. Messmer demande un ordre écrit. Ce qui calme, de ce point de vue-là, les ardeurs gaulliennes, simplement parce que Messmer est fondamentalement contre cette option. Pour lui, à juste titre, en tout cas à cette époque, l'armée française n'est pas formée pour du maintien de l'ordre, mais formée pour des opérations, évidemment, militaires qui visent à neutraliser par la force et l'usage des armes un adversaire. Or, il ne s'agit pas d'ouvrir le feu aux pistolets mitrailleurs sur les étudiants, même casqués, même avec des boucliers, etc., du quartier latin, foncièrement. Ça, c'est le travail des gardes mobiles, c'est le travail d'une police spécialisée dans le maintien de l'ordre. Donc, si cette police est débordée, avec l'armée, ça risque d'être pire. Donc lui, il prépare un recours en cas d'insurrection. C'est-à-dire si ce mouvement, ce monôme étudiant un peu plus violent, se transforme en véritable tentative de déstabilisation politique et d'insurrection coordonnée, de manière plus ou moins secrète, il s'y opposera.
Si certains essayent de s'emparer des bâtiments publics et de radio ou de l'Élysée, que sais-je, l'armée redevient légitime.
Oui,
vous avez compris, mais Je me demande si, d'une certaine façon, ça n'illustre pas cette capacité permanente de Pierre Messmer à avoir ses présupposés de départ, ses valeurs de départ. C'est un homme de cet ancien monde, de l'honneur, du devoir, mais qui s'adapte à chaque fois, aux nouvelles donnes, aux faits qu'il voit. C'est un pragmatique qui ne va pas contre, enfin, qui peut aller contre les événements pour les épouser, pour leur donner une inflexion, mais qui est un réaliste en somme.
Il est assez réaliste, mais c'est pas pour autant qu'un... Enfin, il a du mal à comprendre aussi, comme tant d'autres personnes de sa génération, ce qui se passe en mai 68. Vous me direz, même maintenant, on continue encore à s'interroger sur le sens, plutôt l'essence de mai 68. Mais
vous ne comprenez pas si mal. Hein.
Oui, vous avez ce fameux discours à l'Assemblée nationale au mois de mai, du 14 mai de mémoire, qui est un exemple, une analyse d'une très grande finesse, surtout à chaud. Mais Pierre Messmer n'est pas le calibre, j'allais dire, de compréhension de la crise de civilisation que l'on vit en mai 68, ou en tout cas qui se cristallise autour de mai 68, que peut avoir Pierre Messmer. Pierre Messmer n'a pas cette grille de lecture ou cette capacité de grille de lecture qu'a Pompidou de ce point de vue-là. Il reste un petit peu en retrait. Son objectif...
Il est ministre des armées.
Voilà. Non, mais même s'il était ministre de l'Éducation nationale, d'ailleurs, on ne lui a pas proposé d'être ministre de l'Éducation nationale. Mais c'est d'ailleurs pas un ministère très favorable non plus, globalement. Mais...
Alors, puisque vous avez parlé du ministère de l'Éducation nationale et nous avons évoqué Pompidou, dont nous connaissons le goût pour la poésie, qu'en est-il de l'homme de lettres ? Car il nous reste très peu de temps et nous ne pouvons pas terminer cette émission sans évoquer l'homme de lettres, son entrée à l'Académie et son rôle majeur à l'Académie française, mais aussi à l'Institut de France, bien sûr.
Alors, Pierre Messmer est rentré à l'Académie des sciences morales et politiques en 1988. Il en a été le secrétaire perpétuel. Il a été, poste qu'il a occupé avec brio, ce qui lui a valu ensuite d'être nommé chancelier de l'Institut de France en 1999. Et pendant sa période de mandature, Pierre Messmer a beaucoup fait pour l'Institut de France. Du point de vue des rentrées financières, du point de vue de la mise en place d'un certain nombre de grandes fondations qui font toujours la force de l'Institut de France. Donc Pierre Messmer a été une bonne affaire, si j'ose dire, pour l'Institut de France de manière générale. Et puis ça a été aussi un confrère très apprécié parce qu'il est resté tel qu'en lui-même, c'est-à-dire quelqu'un d'honnête, de simple, qui n'essaye pas d'en imposer par ses titres de guerre, pas plus que par ses titres politiques, c'est comme l'ancien Premier ministre, mais en étant simplement lui-même, c'est-à-dire quelqu'un à la plume simple, parce qu'il écrit comme il est, finalement. C'est une grande simplicité, d'une grande clarté, ses différents récits de sa vie. C'est aussi quelqu'un qui, foncièrement, continue un peu sa carrière, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire au service de la France, à travers un outil qui lui semble essentiel, c'est-à-dire l'Institut de France dans les relations culturelles. Cet acteur culturel de premier plan en France, pour lui, c'est une légitime continuité par rapport à tout ce qu'il a pu faire au service de la France avant.
Et de son rayonnement, c'est une autre façon de contribuer au rayonnement
oui,
de la France.
Tout à fait. Il le fait à travers l'Institut de France et cette fonction de chancelier de l'Institut, oui.
Alors j'ai une ultime question, ce titre, le dernier gaulliste, pourquoi le dernier ?
Alors, c'est d'abord une question d'édition, c'est mon éditeur qui a choisi ce sous-titre. Ce n'est pas une plaisanterie hein, quand je vous dis ça, c'est vrai, mais ça a été accepté par l'auteur, évidemment. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il y a plusieurs manières de voir la fin du gaullisme. Est-ce que le gaullisme a survécu au général de Gaulle en 1969 ? Pour la majorité des historiens, il perdure encore avec Georges Pompidou, qui est l'héritier par excellence du général de Gaulle, de sa conception, qui d'ailleurs fait perdurer la Ve République. C'est grâce à Pompidou que nous sommes encore sous la Ve République. On aurait pu en changer si Poher avait été élu en 1969. Donc, mais après, le mouvement gaulliste, ou les mouvements gaullistes, entrent dans une phase de turbulence aiguë, comme on dit dans la vie aérienne, et il est parfois bien difficile de parler de gaullisme, de néo-gaullisme. Et d'ailleurs, la question est simple, Jacques Chirac était-il un gaulliste ou un néo-gaulliste ? C'est une grande question pour l'historien, et de ce point de vue-là, vous retrouvez des fortes personnalités comme Pierre Messmer qui ont été aux côtés de Jacques Chirac, y compris dans la conquête de l'Élysée et après, et qui ont toujours été cette caution gaulliste historique, celle de la proximité avec le général de Gaulle. Et d'une certaine manière, ce sont les derniers gaullistes. Et lui, il a tous les sésames du gaullisme, Pierre Messmer. Compagnon de la Libération, il a d'ailleurs été chancelier de l'Ordre de la Libération, il a été ministre du général de Gaulle, qui a une fidélité personnelle à l'homme, et ça a été un des barons de l'UDR aussi, de l'UNR puis de l'UDR, il était député-maire de Sarrebourg, bref, ça a été un des grands caciques du gaullisme au sens partisan. Donc il a tous les sésames du gaulliste.
Il n'en reste pas moins que lorsqu'on arrive à la fin du livre, on se dit que dernier gaulliste, parce qu'il faudra entendre gaulliste plus comme un type humain, comme une doctrine politique. Est-ce que vous approuvez cette réception de votre titre ?
Oui, d'une certaine manière. C'est une certaine attitude. Et c'est bien pour ça que Malraux disait que tout le monde a été ou sera gaulliste à un moment donné, en comparant évidemment avec la foule sur un quai de métro. C'est pas simplement en termes de diversité sociale. C'est aussi parce que foncièrement, le gaullisme, c'est la fidélité évidemment à un certain nombre de principes, beaucoup plus qu'à une doctrine. Il n'y a pas de doctrine gaulliste en tant que telle, ou en tout cas pas de dogme. Il y a des grands principes autour du patriotisme, d'un État fort, d'un rôle de régulation, de l'intérêt général. Et c'est ce qui permet à des gens comme Pierre Messmer de s'y reconnaître pleinement, au-delà de la fidélité personnelle au général de Gaulle.
Eh bien, écoutez, il me reste à inviter nos auditeurs à devenir des lecteurs de votre livre, car ils pourraient avoir l'impression, tant la vie de Pierre Messmer est riche, que nous avons balayé l'ensemble des sujets, mais c'est faux, nous avons laissé beaucoup de côté, car nous n'avions pas le temps de les traiter, mais tant mieux, ils peuvent les découvrir en se plongeant dans l'ouvrage de Frédéric Turpin. Il s'agit donc de Pierre Messmer, Le dernier gaulliste, aux éditions Perrin, en partenariat avec le ministère des Armées. Merci beaucoup.
Merci à vous. Thank you.